Alright.
Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Grosso et
Roger Fringant.
Sans oublier Tom qui vous fait coucou, bah ouais, il est pas en face du micro. On vous expliquera ça tout de suite après. Par contre, moi j'y vais comme d'habitude, ça fait du bien. Donc vous écoutez bien les Grignoux tous les mercredis de 20h à 21h30, ça y est Roger, je tiens avec...
Non, je me réveille, mon bon, j'étais en train de farfouiller dans mes vieux papiers, que je n'ai pas d'ailleurs, c'est fini ça tous les mercredis, il faut que vous calmez, désormais vous êtes vieux, vous êtes attends. Comme moi, vous êtes en pré-retraite.
Ouais, on nous a mis en CPA, c'est ça là.
Alors oui.
Ah, il paraît que c'est médical.
Non, pas forcément, ça peut être l'âge, alors vous avez reçu un papier de la radio, comme quoi vous étiez soi-disant officiellement radio des cadres.
Invalide
de guerre. Mais comme moi, je ne suis qu'en CPA, nous avons négocié avec Canal B, on n'a pas encore tout à fait disparu.
Exactement, bah ça me fait plaisir. Mais vous savez, après 34 ans de radio, ah, je tenais bien moi, Jean-Loup Grosseau, Roger Fringant, tous les mercredis de...
On va voir de quelle manière vous pourrez le refaire. Peut-être bien que vous pourrez le refaire. En tout cas, l'émission sera podcastible, comme d'habitude, mais désormais, finie la rubrique de trois quarts d'heure durant laquelle Jean-Loup et moi prenions un malin plaisir à nous engueuler copieusement.
Bah, vous le cherchez aussi, je suis désolé. Hein.
Et les invités, les nombreux invités aussi riches qu'intéressants que nous avons rencontrés tout au long de ces 34 années et que nous remercions encore bien bas aujourd'hui, voilà, nous avons décidé de, pourquoi pas, profiter du temps libre que nous n'avions pas avant pour nous promener. Et je vous ai proposé, mon bon Jean-Loup, un nouveau concept, bistrot de campagne, que je vous dis.
Alors là, par contre, j'ai eu la trouille. Moi, bistrot, vous savez, ce qui me bloque, c'est campagne. Et dès que je sors, dès que je suis à l'extérieur de la rocade rennaise, je sais pas, je suis flippé, je vois des chouettes, des sorciers partout, enfin, des gens maléfiques.
Bref, donc, vous êtes complètement sédentaire, en fait.
Non, en fait, c'est tout à fait médical, hors rocade. C'est pas de ma faute, hein. C'est médical, interdit, parce que je stresse. Là.
Mais il va falloir quand même que vous fassiez des efforts. Alors, on a quand même décidé d'un gentleman agreement. On va, certes, notre émission désormais s'appellera Bistrot de campagne, les Grignoux, Bistrot de campagne.
Voilà. Ou les visites au bistrot, enfin, négociera, c'est pas clair.
Bistrot de campagne, j'aime bien. Moi, il y a un petit côté, culturel là-dedans.
Mais pourquoi vous mettez campagne là?
Parce qu'on va finir par aller à la campagne. Là, je ne suis qu'en CPA, j'ai pas encore beaucoup de temps. Mais ne serait-ce que par chez vous, dans le Trégor lointain, je connais déjà deux bars qui se feront une joie de nous accueillir et dont on pourra parler parce que ce sont des bars un peu particuliers. C'est ça dont on va vous parler. On va pas vous parler des bars de la bande au hibou. Ah, ça ne sert pas à grand-chose, vous savez, ces bars standardisés où la musique n'a absolument aucune importance.
Ou les bars qui possèdent 3-4 bars, mais c'est le même propriétaire. Quoi, voilà. C'est vrai que ce n'est pas très rock'n'roll.
Pas vraiment les serveurs interchangeables, pour le plus grand plaisir des bobos rennais. Non, les bistrots de campagne, pour nous, c'est les bistrots qui ont...
Pour vous
qui ne sont pas forcément à la campagne, mais en tout cas, qu'ils ont un petit côté campagnard pour moi, parce que ça me rappelle l'ambiance du bistrot chez ma tata dans les Côtes d'Armor quand j'étais petit. Bref, un bar où les patrons sont intéressants, puis surtout sympas, parce que comme vous le dites si bien...
Ça, c'est important, parce que moi, j'ai toujours dit, un bistrot, certes, c'est un lieu, mais c'est avant tout un patron ou une patronne. C'est ce qui fait la différence.
Voilà, et ça n'a strictement rien à voir avec le fait qu'on espère se faire payer des coûts.
Ça n'a rien à voir.
Et un t-shirt, un briquet, un bob même, histoire qu'on reste propre, parce que imaginez bien, chers auditrices et auditeurs, que maintenant que nous sommes l'un en CPA, l'autre déjà...
En invalidité.
Validité totale et définitive.
En plus, c'est vrai.
Nos moyens, on réduit aussi, on va faire une grande collecte, on fera passer le chapeau à Cadalbé pour que vous nous aidiez.
On peut essayer, on verra bien, quoi. Et là, où c'est que vous m'invitez, alors, donc, ce soir?
Alors, on commence vraiment par un bar où moi, je vais en chaussons, personnellement, puisque c'est le bar Amine, qui est situé à deux pas de chez moi, rue Saint-Hélier.
Rue Saint-Hélier, c'est ça, ouais.
Rue Saint-Hélier, pas loin de... En face à, comment dirais-je... Presque pas très loin du grand carrefour où on y vend des galettes saucisses. Vous savez, le gros bar tabac là, qui vend des galettes saucisses.
Qui est ouvert même le dimanche.
Voilà, qui ressemble plus maintenant, je dirais, à un coffee shop
qu'un
bureau de tabac.
On y est passé par hasard il y a quelques jours, quoi. Et je vous montrais, vous avez vu, vente de CBD, etc.
Popper.
Et je vous remonte, et là, qu'est-ce que c'est? Du popper. un sex shop, comme
vous dites. Mais apparemment, l'étiquette gratos marche moins. Quant à la presse, elle disparaît. Donc les gens se défoncent la gueule plutôt que de lire du papier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Alors, qu'est-ce qu'on va faire au bar Amine, en fait?
Alors, on va aller au bar Amine, parce que déjà, c'est pas loin. Vous m'aviez demandé un bar pas loin.
Bien.
Et que ce bar, c'est génial, parce que dans cette rue, dans cette portion de rue Saint-Hélier, qui était commerçante, certes, mais dans laquelle on ne s'attardait pas à la nuit tombée, une fois que les boutiques étaient fermées, eh bien, deux amis, Thomas et Sylvain, ont racheté un petit bistrot de vieux qui fermait à 20-21 heures. Et ont ouvert le bar que beaucoup de gens connaissent quand même maintenant, qui s'appelle le Bar Amine.
Ouais.
Et c'est un bistrot de campagne pour nous, pour moi, comme vous voulez. C'est un bar où effectivement on a des patrons sympas, non pas que, en plus de ça, je pense qu'ils vont quand même nous payer un coup.
J'espère, on verra bien.
Sinon, on reviendra là-dessus.
J'ai une petite question. Est-ce que vous croyez qu'ils font du Diabolo fraise? Que j'adore le Diabolo fraise.
Ah, vodka.
Non, vous savez que je suis invalide. Bon,
c'est un bar, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a des expos régulières tous les mois. On a une dessinatrice, ou une peintre, ou un peintre, un dessinateur, bref, un lieu, et il y a de nombreuses activités, de nombreux quiz. C'est tenu pendant longtemps,
c'est
un
ça.
Quiz BD.
C'est pas où il y a quiz BD, et c'est pas là où il passe de la musique, il faut trouver
sur,
ici.
Alors, il n'y a plus de quiz BD maintenant, mais il y a un quiz musical qui remplit le bistrot, où effectivement, force m'est de reconnaître que l'ambiance y est torride.
Bon, écoutez, je crois que vous m'avez convaincu. On enfile nos bottes, on met notre cabaret, parce que comment vous dire, on a l'impression d'être au mois d'août à Rennes.
Je trouve qu'il fait quand même il fait un peu chaud pour un mois d'août quand même.
Et on va aller voir ça. Bon, c'est parti. Oh,
And waiting for rum and creating forever a stain, and all they do is suck you. Can you hear them? Know you're at? They suck you. Feeling good and call it bad. They suck you. They will know to see your pain. They suck you. Let them tell me in your brain. Free your mind. Don't be blind. Man to tell you you're the evil. Man call you the free world's foe. You can't.
Eh bien voilà, ça n'a pas été facile, mais j'ai quand même réussi à traîner Jean-Loup jusqu'au bar mine. C'est loin, me disait-il, c'est loin.
Une longue marche, c'est vrai que c'est dans votre quartier, mais vous savez, avec une invalidité, avec une jambe en vrac. Mais je suis arrivé, moi, jusqu'au bout, à pied, et j'y suis, en fait, au bar à mine. Alors, on en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure.
C'est un peu pour ça qu'on est là.
Bah, exactement. Mais dans un petit espace extérieur. Et je me disais, non, c'est quand même rare dans les cafés dits du centre-ville, au sens large, d'avoir cette petite espace où on puisse respirer. Mais je vais trop vite, parce qu'on est justement avec Thomas, un des deux patrons, et puis on en parlera, on aura Sylvain tout à l'heure. Et on aurait quelques questions à lui poser. Et notamment, alors on veut déjà votre numéro de sécurité sociale. Je sais que ça commence par un 1, donc ne vous mentez pas. Enfin bref, ça a été quoi votre vécu avant d'arriver au bar à mine ?
Alors bonjour Thomas,
oui,
déjà
bonjour.
Peut-être on peut
bonjour.
Lui dire bonsoir.
Bonjour,
déjà.
Bonjour.
Donc Thomas, vous êtes donc un des copatrons du bar à mine.
Exactement.
Et puis, voilà, on vous demande un petit peu de vous présenter.
Alors mon numéro de sécurité sociale commence effectivement par un 1.
Je le savais.
Voilà.
Et l'année ?
L'année c'est 83.
Oh non.
Ce qui
c'est
fait
pas
que.
Vrai. Non, Dieu. Ah,
on a vieilli, Roger, on a vieilli.
Eh, c'est pour ça qu'ils nous ont mis un petit peu sur la touche à Canal B.
J'ai l'impression.
Je vous dis, oh, putain, 83.
Alors, 83.
Thomas, avant de tenir le bar à mine, ça a été quoi votre vie
Ça a été du bar en tant que salarié avant. Et ça a été des activités salariées diverses et variées. Rien de très intéressant jusqu'à ce que avec Sylvain on trouve ce lieu quoi.
Beaucoup de bars quand même, parce que moi quand on m'a dit oui Thomas, quand j'ai découvert votre bar, un véritable miracle d'ailleurs, à côté de chez moi je peux venir en chaussons, c'est miraculeux. Et on me dit ah mais Thomas je le connais, vous êtes comme un vieux passif dans le bistrot, vous êtes un vieux du bistrot.
C'est vrai que j'ai appris le métier dans le bistrot, ouais. Et j'ai fait avant d'ouvrir ici j'ai fait 4-5 ans de bar à Rennes, bars du centre, à savoir le Gasoline et le petit bar qui est Place Sainte-Anne. Quoi.
Mais vous vous destinez à ça ? Pourquoi vous êtes tombé dans la marmite des bistrots ?
Parce que j'ai rencontré que des gens sympas. Et ça m'a donné envie de contact, les gens.
Vous savez, quand vous êtes à 5-10 cm derrière le comptoir, vous êtes sympa avec tout le monde. Quels que soient les barmanes, attention. Là.
Et le meilleur, c'est quand on a un plateau en terrasse. Bizarrement, tout le monde vous dit bonjour et vous sourit.
Parce qu'ils savent que sinon, ils ne seront jamais servis.
C'est ça. C'est pour ça qu'on ne fait pas de plateau au bar à mine.
J'ai une question qui va vous paraître peut-être idiot. Le métier de barman, c'est pas un métier dangereux. Dans le sens où, vous savez, quand on lit souvent, il a ouvert un bistrot, il est devenu son premier client. Quoi, là. Est-ce que, il faut faire attention, pas être son premier client, c'est-à-dire boire beaucoup d'alcool dans les soirées.
À partir du moment où on n'a pas conscience de ce truc-là, ça peut être un métier dangereux, mais à partir du moment où on ouvre un lieu et que les gens reviennent avec plaisir, c'est pas un métier dangereux, c'est plutôt même sympa comme taf, quoi.
Mais il faut quand même un peu d'autodiscipline, je suppose.
Exactement, ouais.
Voilà, alors, mais c'est tout ce que je voulais entendre.
C'est vrai que nous, avec Jean-Loup, on a zéro autodiscipline, modération, on ne sait même pas qui c'est.
Mais c'est médical, mon cher Roger.
Et donc, c'est quand même, il faut quand même avoir une petite force de caractère, quand même, pour pas sombrer dans la liche.
Ça commence avec un bonjour, sourire. Et puis ensuite, il suffit qu'il y ait deux bons copains. Nous, on leur dit bonjour plusieurs fois dans la soirée. Quoi.
Et pour en revenir, en fait, Roger vous a posé la question. Mais vous êtes rentré comment ou par quel biais, justement, dans ce milieu ? Je pense que vous n'avez pas répondu d'une manière extrêmement claire.
Ok. Et perso, quoi. Okay.
Perso, ouais. C'est le hasard de la vie, c'est une volonté.
C'est un peu le hasard de la vie, ouais. Et en fait, j'ai emménagé dans le centre-ville de Rennes. Et mon frangin qui me dit, au fait Thomas, faut que tu ailles dans le bar en bas de chez toi, c'est hyper cool, le patron est très sympa quoi. Et j'y suis allé une fois, deux fois, trois fois, et je suis devenu habitué de ce bar là quoi.
Comment il s'appelait le bar, tu sais?
C'était le Gasoline.
Le Gasoline,
ouais. Et à force d'y traîner, d'y aller, j'ai dit mais j'aimerais bien faire ce taf là quoi.
Et vous faisiez des études à cette époque là ou vous étiez chômiste?
Non, à cette époque j'étais facteur.
C'est pour ça que vous connaissez Anthony.
Exactement.
Et vous deviez être contractuel, non, comme facteur?
Non, j'étais juste un homme de lettres.
Ouais, façon de parler. Enfin, vous étiez fonctionnaire.
Ouais, j'étais ouais, contractuel. Ouais,
ouais, ouais. Ouais, donc, oui, contractuel, il y a ouais, le mot contrat. C'est ouais, pas c'est bon ça, en général.
Pour vous avez fait facteur pendant pas mal de temps.
Pendant 7 ans, ouais.
Ah ouais, quand même.
J'ai fait 7 ans à la poste. Et au bout d'un moment, je m'ennuyais clairement.
Ouais, ouais, ouais.
Et il y a eu l'opportunité de prendre un taf dans, au gazo, justement. Et j'ai pris. Hop, rupture,
rupture conventionnelle.
Non, c'est pas la rupture conventionnelle. C'est ce truc qui. Attends.
Une avance sur la mort.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est
du pognon, quoi.
Je me suis mis à dispo pendant 11 mois.
Ah, okay. Voilà, merci. Ok, c'est bien aussi.
Et au bout des 11 mois, j'avais soit je retourne à la poste, soit je continue dans le bar, et j'ai choisi de continuer dans le bar.
Donc ils vous ont pété votre vélo, vous avez été dans la cour centrale de la poste, ils vous ont arraché tous vos boutons, piétiné votre casquette et pété votre vélo.
Et ils étaient contents que je démissionne.
Bah écoutez, moi, vous êtes satisfait de cette présentation, vous avez peut-être d'autres choses à demander. Mais,
et peut-être revenir quand même dans les plaisirs que vous tirez de ce métier.
Oui, c'est
vous
vrai,
dites le contact, on n'a pas vraiment trop abordé de ça. Les horaires sont un peu distendus. Comment on fait avec sa vie de famille pour concilier une vie privée et une vie de bistrot?
Alors en fait, on a l'avantage d'être deux associés. Et à deux, en fait, on...
Sylvain, c'est votre deuxième associé.
Exactement, avec Sylvain, ouais. Et du coup, on a aménagé un planning histoire de... On ne gagne pas des mille et des cents, mais on a du temps, quoi. Ce qui fait qu'on est ouvert du mardi au samedi de 17h à 1h. Mmh. Et en fait, on bosse ensemble tous les jeudis et on se répartit le reste de la semaine ensemble, quoi.
Donc, vous avez à vivre d'un boulot qui vous fait plaisir.
Exactement, ouais.
Bah, c'est ça, peut-être, le secret, même voilà, si on ne devient pas millionnaire.
Et donc, vous avez beaucoup plus de temps libre pour avoir une vie privée.
Ouais, on a du temps, exactement. Okay. Pour la vie privée, entre autres, et puis pour le temps, les amis, tout, quoi.
Très bien. Eh bien, on vous remercie. Ouais, on va s'écouter un petit disque.
On va s'écouter un petit disque. On vous retrouve tout à l'heure. Hein, vous inquiétez pas, on va pas vous lâcher comme ça. We'll be right back.
Eh bien voilà, après cet excellent morceau de la programmation à Roger, j'en suis sûr, eh bien nous sommes en compagnie de Sylvain. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Roger. Bonsoir. Alors, Jean-Loup.
Donc vous êtes le deuxième copropriétaire, et après avoir interviewé Thomas, on s'est dit, tiens, ça va être au tour de Sylvain. Et ce que vous voulez savoir tout simplement, c'était quoi votre vie avant le bar à mine en fait? Alors, je suis sûr que vous avez une vie très intéressante. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon petit doigt qui dit ça.
Avant le bar à mine, oui, c'est passé plein de choses avant le bar à mine. Ah. Il s'est passé des choses qui ont fait que pourquoi le bar à mine.
Voilà, alors, nous, rien d'indiscret là-dedans. Sylvain nous a dit comment, Thomas nous a dit comment, de facteur, il était devenu barman, etc. Et on se demandait juste un peu comment, on tombe dans la marmite du bistrot, voilà.
Comment on devient marchand de cuite.
Ouais, par exactement. Exemple. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait avant, vous faisiez quoi avant d'être patron de bistrot?
Beaucoup de choses. Beaucoup de choses.
Je me demande, c'est pas un peu dans l'artistique, quand même?
Un petit peu, entre autres.
Ouais. Alors, c'est-à-dire, soyez plus précis.
Je le sais, moi, parce que je le connais un peu, mais il est très timide. Mais vous êtes artiste, quand même, vous êtes un artiste.
Ouais, un petit peu, la base, formation hôtelière, des années de voyage, plein de rencontres, le nez dans le dessin depuis tout gamin. Contrairement à plein de gens, j'ai pas arrêté, j'ai continué. Mmh. Rencontre avec des gens, du fanzina, de la BD1D, de la production, et de là. La vie a fait qu'à un moment, je me suis dit, tiens, si j'ouvrais un bistrot pour accueillir des fanzines, des choses comme ça.
Mais alors pourquoi voilà. Rennes? Parce que vous
êtes pas...
Ouais. Ouais. Mais vous n'êtes pas rennais de base.
Ah non, moi j'ai grandi dans l'île de Ré.
L'île de Ré, ouais. Ça c'est un truc de chicos, ça.
Ouais. Tu comprends pourquoi je suis parti. Vous comprenez, pardon, monsieur Roger, pourquoi je suis parti.
Bon, les auditeurs ne vous voient pas, mais effectivement, il se peut que votre look est un peu détonné entre les volets bleus des résidences secondaires, non?
C'est un peu ça.
Petite parenthèse, moi ce qui me fait toujours rire, alors que ça fait quand même des années que j'habite à Rennes, et vous aussi, Roger, quoi. Les gens ne viennent jamais de Rennes. Ils sont tous d'ici, de la droite, à gauche, quoi. Et je ne sais pas si je connais un vrai Rennais d'origine perso.
Thomas, je me demande si Thomas n'est pas un vrai
Thomas
Rennais.
Thomas Rennais.
Ouais, ouais, enfin, Thomas,
c'est son, ça compte.
Pardon ?
C'est son, ça compte.
C'est son, ça compte quand même.
Alors, d'après
vous, par contre, pourquoi Rennes ?
Je
pourquoi est-ce que vous avez atterri
pas
à Rennes ?
Ou ailleurs aller, en fait.
C'est vrai ?
J'ai bossé pendant 10 ans sur Paris, grosse overdose de voilà, les dernières années là-bas, genre. Et chercher un endroit où me réfugier, et j'ai pensé à Rennes, et je me dis, bien sûr, c'est arrivé comme une évidence.
Ah, vous connaissiez des gens sur Rennes, ou une amie, peut-être, je ne sais pas?
Non, j'ai pas mal fréquenté Rennes sur la fin des années 80, début 90, et j'étais resté sur... je suis plus très jeune, et je suis resté sur ces souvenirs de grosses fêtes à Rennes, et une ville jeune, dynamique, qui bouge, où se passent des choses... beaucoup de dessinateurs sont de Rennes, ça m'a aussi pas mal attiré, enfin voilà, plein de choses qui ont fait que...
Si j'ai bien compris, parmi vos nombreuses passions, celle qui domine, c'est le dessin, c'est ça?
Qu'est-ce
que vous faites comme dessin? Des BD, de l'artistique? J'y connais rien, c'est pour ça que je vous pose une question aussi naïve. Et me regardez pas méchamment comme ça, attention.
Non, je me regarde pas méchamment, Jean-Loup. Pourquoi ça? C'est pas une envie,
Voilà, j'ai posé ma question différemment. C'est quoi votre style de dessin? Voilà.
Y a plein de styles différents, j'aime bien les chercher un peu partout. Ça peut être très franco-belge. C'est très franco-belge. Hein. Les bonhommes à Grenet, des choses comme ça.
On parle pas de bande dessinée, on parle de supports artistiques différents. Par exemple, moi je
sais. Ça peut être le papier, ça peut être le bois, ça peut être.
Palette.
Ouais, la palette. Ça peut être des créations textiles, ça peut être le papier mâché, ça peut être le latex, enfin ça peut être plein de choses.
Et justement, je crois savoir de source sûre que. Vous avez déjà commencé, ou ça va bientôt arriver, vous allez exposer dans un bar au nord de Rennes.
Mais dites-moi, vous êtes bien informé.
Des années de métier, je dois avoir le nom quelque part.
Oui, au Babazoula, au mois de novembre.
Voilà. Et vous allez exposer quoi? Est-ce que c'est le même type de travaux que ce que vous aviez exposé au bar à mine? Peinture sur palette.
Oui, c'est ça, c'est de la peinture sur palette, et sur le principe du détournement. Ou de la citation. Je prends quelque chose que j'aime bien, je me l'approprie et j'en donne ma vision.
Un film, un bouquin.
Un film, une pochette de disque, un bouquin, Voilà, et là, il y aura aussi des créations textiles, des mises en situation. Voilà.
Et vous parliez tout à l'heure de production. Alors, production de quoi? De dessin, de musique?
De fanzine.
De zine?
Ouais, de fanzine, ouais. Fanzine BD. Pas okay. Fanzine musicaux. Voilà,
tout autour de la BD, ouais. Pour simplifier, ouais, ou du, ouais, dessin, ouais, ouais, on va,
ouais,
dire.
Du dessin, ouais, terme. Ça reste du dessin.
Et alors, on va revenir au bar à mille, parce que bah, là, quand, bah, il faut bien manger. Donc effectivement, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, ouvrir un bar, où on va revenir là-dessus tout à l'heure, vous organisez des expos, on est dans un... On prendra des photos d'ailleurs, on va prendre des photos, on essaie, je les prendrai parce qu'en général...
Ouais, voilà. Moi je suis pas bon.
Et donc c'est un bar qui est extrêmement décoré, il y a des expositions temporaires tous les mois, je crois.
Six semaines, tous les six semaines.
Six semaines, voilà, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais vous avez encore le temps de... Ça ne vous fait pas chier d'être au bar, je crois que c'est l'activité qui se liait le mieux avec le dessin.
Pas forcément, mais j'avais envie de ça.
Ah, ah.
Je sortais d'une expérience professionnelle où le monde du salariat ne me convenait plus. Les N+, et l'incompétence, j'en avais ras-le-bol. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets au RSA ou j'essaye de faire un truc? J'ai essayé de faire un truc et c'était le bar à mine. Voilà.
Ah, ah.
Un bar qui s'anime autour de du fanzina, de la BD indépendante.
Et moi, le négatif de la bande, alors je sais pas pourquoi tout le monde dit que je suis négatif, c'est absolument pas vrai. Bah, j'ai posé la question à Thomas et je vous la repose en fait. Est-ce que le métier de patron de bar, c'est pas un métier dangereux? Dans le sens, c'est ce que j'ai dit à Thomas tout à l'heure, ah bah tout allait bien, mais il est devenu son premier client, si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, bah, si on en est conscient au départ, donc on fait attention. Après, c'est vrai que c'est une pente très glissante sur laquelle on peut très vite prendre une luge. Mais non, il faut garder la tête froide. Il y a une différence entre boire un coup avec des copains et se coller une race tous les soirs. Quoi.
Mm-hmm. Alors qu'est-ce que vous appelez se coller une race? Avec Jean-Loup, on n'a jamais réussi à définir le concept. En fait, hein. Et le problème,
alors...
c'est que... Non, je vous assure, oh, on est un petit peu chaud.
Ouais, mais je parle à des Renault-Rennais aussi. Donc c'est compliqué. Bon, c'est quand tu rentres à la maison et que tu te souviens pas ce que t'as fait.
La veille, voilà. Ça c'est vraiment la race, quoi. Ok.
Voilà, pour moi, ouais. Okay. Ma vision de se coller une race. Ouais.
Bon, je suis d'accord avec vous, Roger, on n'a jamais eu ce genre de problème, je pense pas, quoi. Allez, on remercie Sylvain et puis on fait une petite coupure musicale.
Merci.
Et on reprendra après sur le bar à mine en lui-même.
Circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. She rode with a chompity chomp, 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 chomp. Now Nelly the elephant had to chomp and chomble up in the jungle. Off she rode with a chompity chomp, chomp, chomp. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm.
Jump, jump, jump.
tired of walking so close to the ground. They needed a change, that's what they said. Life is better walking on two legs, but they were in for a big surprise, 'cause they didn't know the law. We'll be right back.
Eh bien voilà, et bien voilà, nous sommes maintenant, nous sommes maintenant à la troisième partie de notre, maintenant à la troisième partie de notre interview. Comment la partie la plus torride, celle que je préfère, c'est celle de la rencontre. Vous êtes rencontrés où? À la plage?
Non, dans un bistrot.
Oh.
Non, mais au moins c'est marquant, quoi, ça.
Ouais, dans un bistrot où je travaillais, ouais.
Ok.
Ouais. Dont tira le nom. Ben non, c'est déjà dit.
Comme la librairie du bout de la rue, là, tu sais.
Alors, qu'est-ce qui vous a plu, Thomas, chez Sylvain?
Sa coupe de cheveux.
Pareil.
Et ce qui m'a plu, c'est le projet qu'il avait. En fait, il avait un projet d'ouverture de bistrot. Et il m'a dit, si j'ouvre mon bistrot, je te débauche, tu viens bosser avec moi. Et j'ai dit oui.
Donc c'est vous, Sylvain, qui aviez vraiment envie d'ouvrir un bistrot pour le coup?
Ouais, avant de répondre, est-ce que je peux poser une question?
Oui.
Est-ce que cette émission est écoutée par les enfants?
Non.
D'accord,
est-ce
donc
qu'à
je peux répondre librement.
Est-ce qu'à 50 ans, on est encore un enfant? C'est un peu notre moyenne d'âge de auditrice, auditeur, 50 ans, ça devrait passer. Et donc, c'est vous qui avez branché, ne prenez pas ça mal, mais du coup, le pro du bar, c'est vous, Thomas.
Oui.
Et vous, vous êtes plus, vous avez amené le côté artistique et le côté du projet, c'est ça?
C'est ça.
Alors, comment qu'on ouvre un bistrot? Vous aviez des sous à l'île de Ré, vous disiez que vous aviez traîné un peu à l'île de Ré, vous aviez...
Ouais, j'ai eu la chance de grandir là-bas. À l'adolescence, j'ai commencé à me dire, ouais, c'est cool qu'il n'y ait pas de lycée, qu'il faille aller à la... Monsieur le professeur français, qui faille aller à la ville pour aller au lycée, donc internat en seconde, et la découverte du monde. Pourtant, c'était à La Rochelle, c'est quand même pas non plus...
Et là, par contre, sur un côté plus prosaïque, donc vous vous êtes regardé dans les yeux, pouf, ça a matché grave, comme disait Jones aujourd'hui, sans passer par Tinder, juste rencontre de bistrot à l'ancienne.
Ouais.
Et comment qu'on ouvre un bistrot? Faut un peu de pognac, quoi. Faut aller voir les banquiers. Comment que ça se passe?
Alors, faut un bon projet et puis être très convaincant. Et Sylvain a le talent d'être convaincant. Et bien conseillé.
Il faut surtout être patient, parce que ça se fait pas en 15 jours. Ça nous a pris, moi, du moment où j'ai pensé le projet, le concrétiser, commencer à chercher à droite, à gauche, et l'ouverture du lieu, ça a pris plus de 2 ans.
Alors, c'était quoi votre critère? Vous êtes tombé ici par hasard ou...
Le critère principal, c'était pas le centre-ville.
Ouais,
l'esprit des bars de quartier.
Vraiment l'esprit du bar de quartier. Alors, c'est ce que je disais à Jean-Loup, et j'ai dû vous le dire, mais c'est vrai que dans la rue Saint-Élie, vous avez créé une sorte de biotope, comme il y a au bord de la mer. On soulève une roche et en dessous, ça grouille de bestioles plus ou moins répugnantes. Et c'est rigolo, c'est un biotope que vous avez créé, rue Saint-Élie.
Je pense qu'on devait être attendu.
Ouais,
parce que passé 20h, il n'y avait plus rien. Et puis, depuis qu'on a ouvert, passé 20h, il y a quelque chose, quoi.
Donc, vraiment, on est dans l'esprit bistrot de campagne. Vous voyez, on n'est pas dans le centre-ville.
Et moi, c'est vrai que Roger, c'est son bistrot de quartier. Il a beaucoup de chance. J'habite pas le même quartier, moi, pour simplifier. Et j'ai venu 3-4 fois, mais j'adore venir ici. Parce que quand je ressors, je suis plein d'enthousiasme. Je ne sais pas pourquoi. J'ai deux questions idiotes. La première, vous avez ouvert quand, en fait? En quelle année? Il y a 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans?
Il y a 7 ans et demi. C'était 16 mars 2017. 16 mars 2017.
C'est cela. Ouais. Donc vous n'êtes pas un bistrot récent, parce que 7 ans et demi, c'est pas il y a 2 ans, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, 7 ans et demi, on apprend à lire, à écrire et à compter. Ouais. Donc on est jeune, mais pas si récent.
Et on y croit, là. Et deuxième question, et puis Roger m'a donné la réponse. Je dis, mais pourquoi ça s'appelle le bar à mine? Et Roger me dit, lève la tête, tu sauras. Parce que c'est vrai que je vois que je suis venu chez vous, il faisait nuit, vous avez un truc devant pour vous protéger de la pluie les fumeurs, et j'ai jamais vu le dessin qu'il y avait au-dessus. Donc bar à mine, c'est mine de crayon, si j'ai bien compris.
Exactement.
C'est du Sylvain tout craché, je suis sûr.
Exactement.
Voilà.
Alors, c'est rigolo parce que moi, Baramine, au début, en bon breton, je m'étais dit, tiens, c'est là qu'on va aller se mettre une tossée, quoi. Parce que pour moi, une mine, c'est quand on se met une mine, c'est un peu ça.
Et moi, je voyais l'outil.
C'est un peu comme une race, monsieur Roger.
Voilà, quand vous appelez ça une race, moi, je me dis, oh putain, c'est mis une mine.
Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à lever la tête des fois parce que il suffisait de lever la tête. Et c'est vrai qu'en arrivant, oui, évidemment, Baramine. Bon, maintenant, j'en sais plus grâce à Sylvain. Donc 7 ans et demi, vous avez ouvert. Comment ça a démarré? une clientèle, ça se crée, je sais pas comment dire les choses, ça a cartonné tout de suite ou ça s'est fait lentement, ou les deux?
On a eu du monde rapidement. En fait, on a, en même temps qu'on cherchait un lieu pour ouvrir, en fait, on a communiqué en fait avec nos réseaux. Moi, je bossais dans un bar, du coup, je parlais dans le bar, j'avais le droit. Et puis Sylvain, de son côté, t'activer le réseau, quoi.
Et l'originalité, c'est aussi parce que derrière, il y a quand même Barami, non pas un endroit où on y va forcément pour se pochetronner la gueule ou se mettre la race, comme vous le disiez si bien tout à l'heure,
se tosser,
mais aussi pour y voir de belles choses, parce que toutes les 6 semaines, il y a une exposition différente.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire deux petits mots,
Sylvain? Les expos qui se passent au Barami sont principalement autour du dessin, de l'illustration. Une expo par an, ça va être de la photo. Sinon, c'est vraiment... Il faut que ça soit du dessin.
Alors, j'ai cru comprendre d'ailleurs que votre programmation se complétait de plus en plus vite à l'avance, c'est vrai?
Non, mais en général, sur les saisons septembre-juillet, on est complet. Jusqu'à juillet, je sais qui j'ai jusqu'à juillet. Ouais.
Alors, c'est vrai que ça manque de lieu un peu pour une artiste pour exposer de la BD, du dessin, etc. Ça manque un peu sur Rennes.
Il y a des lieux, après, ce qu'ils sont adaptés, comment les artistes sont accueillis, comment les murs sont faits, ce que l'expo est en valeur ou pas, c'est...
Vous faites un vernissage quand il y a une nouvelle artiste ou un nouvel artiste qui arrive,
l'artiste décide.
Et on peut acheter des œuvres qui sont affichées sur les murs.
En fonction de l'artiste, s'il a des choses à vendre, oui. Après, sur les vernissages, des choses comme ça, il se passe plein de choses rigolotes, chaque artiste le vit à sa façon. On a par exemple quelqu'un qui vient du milieu du street art qui a dit « tous les vendredis, c'est vernissage ». Et c'était rigolo parce qu'il a vraiment fait vivre son expo, c'était chouette, il est venu avec des DJ, on a la chance d'avoir une petite cabane à DJ. Donc on peut organiser des petites choses un peu plus sur les vernissages.
Eh bien écoutez, on va s'écouter un petit disque et puis on va reprendre notre conversation.
Platform 9. Et oui, nous sommes de retour au Baramine. En fait, on ne l'a pas vraiment quitté, mais quitte-t-on un jour le Baramine ?
Pour poser la question.
Interviewer Thomas et Sylvain. Et justement, bon, il y a un bar, certes, mais pas que. En fait, c'est quoi les différentes activités que vous faites ? On parlait du côté artistique, mais après, il y a eu des DJ.
Quiz.
Des quiz, voilà, voilà, les mots anglais, j'ai du mal, le BD, musique.
Pendant de longues années, il y a eu un quiz BD, excellent, excellent. Et puis, il n'y en a plus là maintenant.
Bah, les quiz BD, ça a duré 5 ans, tous les 2 mois à peu près. Le problème, c'est que ça tournait en rond et ça nous a fatigués. On aimerait bien renouveler, trouver un nouveau jeu autour du dessin. On en a eu un qui s'est fait l'an dernier.
Genre tac-o-tac.
Non, c'était des thèmes tirés au sort et c'était sur un... Comment appelle-t-on cet objet
Le Schmidblick.
Non, c'est un... C'est pas un vidéo... C'est un rétroprojecteur, voilà. Il y a un jeu qui se faisait au rétroprojecteur sur écran.
Yes.
Ça a été des premières tentatives. Ça serait bien de recommencer, d'ailleurs. Voilà.
Ouais, ça c'est un peu des équipes, battle de dessin, voilà. Et mais sinon là en ce moment on fait beaucoup de quiz musicaux à l'aveugle, blind test. Pour ceux qui connaissent.
C'est quoi le principe d'un quiz musical en fait ? On passe des morceaux, faut deviner qui a fait le morceau.
Exactement, ouais.
C'est ça.
Le morceau passe, tu devines artiste et titre, et puis tu gagnes des points pour ton équipe. Ouais.
Très bien, là.
On fait ça, ouais.
Par contre, je vois une roue avec plein de trucs qui pendouillent. Est-ce que c'est un distributeur ou est-ce que c'est une œuvre d'art sans vexer personne ?
C'est l'arbre à fanzine. C'est un petit peu notre fanzinothèque. Elle est présentée comme ça pour que les livres soient un petit peu visibles et faciles d'accès, plus que rangés dans des caisses par ordre alphabétique.
Donc,
c'est moins attirant.
C'est-à-dire que si je veux en décrocher un, je peux sans problème.
Ah oui,
bien sûr. Je ne savais pas, mon petit peu. Il ne
faut pas hésiter.
Pour ça que je demande.
Alors, et nombreux de ces ouvrages sont en vente au bar.
Alors on va être plus précis, on va tâcher d'être plus précis parce que Sylvain est très modeste. Mais en fait, il a fabriqué une routothèque, c'est-à-dire qu'à partir de routes vélo, il a suspendu des petites ficelles, au bout de quelles il y a une pince, et la pince sert à un fanzine en fait. On est en fait une fanzinothèque et donc le Baramine, c'est un lieu où on peut suivre certains fanzines. Il y a Chéri Bibi par exemple, parce que en plus de ça, donc il y a une place qui est accordée aux fanzines ici, et tous les ans on a une espèce de festival du fanzine ici. Alors pas une espèce, un festival du fanzine.
Ouais, à notre niveau, ça reste assez modeste. Ça s'appelle le Zinefest, c'est le 3e samedi de novembre. Cette année, ça tombe le 16 novembre. On ouvre le bar exceptionnellement pour cet événement à 14h. Il y a une grande table de presse qui est à l'entrée du bar où tous les collectifs, les fanzineux, les auteurs indés viennent, laissent leur production, et le reste du bar est dédié à la rencontre, au dessin, à l'échange. Et c'est une journée de 14h à 1h autour du dessin où les gens se rencontrent, des projets peuvent naître, des amitiés, voilà.
Alors, il y a une déco, alors on parlait de la déco tout à l'heure, et notamment dans le petit salon, parce que Jean-Loup aime bien les petits salons.
Et non, je parlais du son, pas du petit salon.
Mais vous avez le droit d'aimer les petits sabots.
Ouais, mais avec un son sourd.
Et donc, y a, sur le mur, il y a des jolis dessins, etc. Et tout le, quand on ne peut pas lever les yeux sans tomber sur des dessous de bière illustrés, etc. Y a, comment dirais-je, une place faite à l'image qui est assez impressionnante ici, quand même.
Oui. Ça, moi, ça, pour, enfin, oui, pour moi, ça coule de source.
Ah, ouais, pensez aux non-habitués comme moi. C'est vrai qu'on peut
mettre des yeux partout. Par exemple, là, moi, je suis en dessous d'une belle lune.
La mine, que... monsieur Jean-Loup, la mine.
Est-ce
toujours la mine.
Est-ce que vous vous rappelez qui nous a dessiné cette belle lune au-dessus de votre tête? Elle est magnifique, on dirait du Tim Burton.
Non, je ne sais plus qui a dessiné ça. Non, je ne sais pas du tout.
Mais elle est bien.
Oui, elle est très chouette.
On a même un spécialiste du casque allemand à pointe. Comment il s'appelle celui-ci?
Vincent,
le casque monsieur allemand.
Monsieur Vincent Aurin, qui sera d'ailleurs en exposition au bar. La prochaine expo, c'est lui. C'est de mi-novembre à fin décembre. Il sera sur les murs pendant le Zinfest.
Voilà. Et là, en ce moment, il y a une expo. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'expo? Alors, je crois que c'est une dessinatrice.
Oui, Maria Revilla, qui est de son métier enseigne le dessin, la peinture, m'a présenté son travail. Oui, carrément, je valide. On fait une expo ensemble et c'était en décembre, janvier, quelque chose comme ça. Et voilà, là, l'expo est au mur. Et,
comment vous
travail.
Définiriez son travail? Elle travaille sur quoi, plus précisément?
C'est du grand format. Elle travaille au stylo, souvent sur toile. Et là, elle a travaillé sur papier. Ses originaux, c'est du 50-70. Là, les impressions sont en 30-40. C'est que du trait. C'est le principe de trait. De petits traits. Répétition de petits traits. Et elle s'inspire, elle, de beaucoup de livres, de musique. Une phrase va lui inspirer un dessin, une idée.
Moi, j'aurais une dernière question à poser à Thomas, parce que qu'est-ce qu'il est bavard, Thomas. Ah, c'est là, on n'entend que lui. Oh, un truc de vieux, on va dire d'expérimenté, que je découvre au niveau des bars, c'est la pinte. Nous, les vieux, on boit un demi.
Bonne
demi,
question, mon Jean-Loup.
Et c'est vrai que partout, je vois de la pinte. Je sais pas comment ça s'explique, c'est récent ce phénomène-là.
Je suis pas sûr. En fait, la pinte fait un demi-litre.
Ça, c'est anglais, ça. C'est typique d'Angleterre.
Ah, ça dépend. En fait, ça dépend si tu as envie de que ce soit frais tout le temps ou que ce soit frais et tiède à la fin. Donc, si tu veux que ce soit frais tout le temps, tu prends un galopin. Si tu veux que ce soit frais. Tu prends un demi, et si tu veux que ce soit frais et tiède à la fin, tu prends une pinte.
Alors, on peut peut-être poser la question. Je vois, on a un jeune homme à côté de nous.
Né en 1983.
On a un jeune homme à côté de nous. Il nous écoute fort gentiment. Ça a l'air de l'intéresser, ce qu'on raconte. Ce qui m'étonne, d'ailleurs, vu son jeune âge, il serait mieux à draguer les filles. Et il a une pinte. Pourquoi est-ce que vous prenez une pinte?
Je suis un habitué du demi. Mais là, ce soir, je vais faire efficace.
Bon, il faut s'excuser parce que c'est vrai, moi ça me surprend. Est-ce que la pinte est moins chère ou est-ce que c'est l'équivalent de deux demi?
C'est l'équivalent de deux demi.
Et les gens ils boivent une pinte quand même.
D'habitude.
Ouais, mais c'est dingue, c'est alors, on est rêvé vieux, Roger. On est rêvé vieux.
Enfin, alors, est-ce que c'est pas
socialement ou sociétalement?
Sociétalement, non, c'est plutôt
ça. Ce qui reste étonnant, c'est que si. Au comptoir, tu peux avoir un 25 ou 50 en verre, enfin à la pression, mais si tu prends des bouteilles, c'est 33 et 75. Moi, j'y comprends rien, du coup.
Et une question très indiscrète, est-ce que c'est plus rentable pour vous, globalement, de vendre une pinte ou deux demi?
Le truc qui est simple, c'est qu'ici, un demi, c'est 3 euros, une pinte, c'est 6 euros, comme ça, on se prend pas la tête.
Ah oui.
Ouais, mais bon.
En fait, c'est la vitesse à laquelle boivent leur bière les clients, en fait. Plus ils boivent vite, plus c'est rentable, quel que soit le contenant.
Bon, après, tu fais comme tu veux, tu peux boire ta pinte et partir, ou prendre deux demi et rester, quoi.
Mais vous faites encore les demi, hein, heureusement. Vous allez les garder. Ah, j'ai eu peur, là.
Même le galopin.
C'est vrai.
Hormis la bière, quelles sont les on va dire pas une boisson d'appel, si c'est comme ça qu'on appelle ça, les boissons qui partent le mieux?
Non, il y a toujours une bière d'appel, c'est ce qui se dit. Mais ici, on a 6 bières à la pression, que des Belges et une locale. Donc ouais, 5 Belges, une locale, et sinon on fait des rhums arrangés.
Ok.
Préparés par nos soins.
Bah écoutez, moi j'ai passé une bonne soirée en fait, et je crois que je vais revenir peut-être au Bar à Mine, même si j'habite pas le quartier. Et en plus, comme je disais, pour se garer, alors ça c'est génial, rue Saint-Hélier.
Vous allez les... à pied.
Et les bus, il y en a un tous les 5 minutes qui s'arrête devant.
On est surtout à 5 minutes à pied de la gare.
Et là, eh oui, c'est vrai. Alors on va parler quand même d'un rhum. Alors il y a les rhums arrangés, c'est la spécialité de Sylvain, ça.
J'aime bien travailler le rhum, ouais.
Ouais, vous êtes un peu l'alchimiste de la maison, quand même.
L'alchimiste, non, je dirais plus le cuistot.
Pour vous, c'est de la cuisine, les mélanges d'alcool?
Pas les mélanges d'alcool, pour le rhum. Le rhum, après, les trucs de cocktail, non. Ouais, je peux faire un ginto. Ouais, ça, on est pas mal sur le ginto. Non, le rhum, ouais, c'est un des produits de base du Bar à Mine avec la bière. J'aime bien travailler le rhum parce qu'on l'oublie.
Ah, on est d'accord, parce que
on prend une bouteille, on essaye des trucs, on les cache, on goûte, oh c'est pas mal ça, et oh c'est pas terrible, peut-être comme ça serait mieux fait. Mais la base, si je dis que c'est de la cuisine, c'est parce que tu fais un sirop.
Okay. À la base
on fait un sirop, et avec un bon sirop on prend un bon rhum, des bons fruits, bien sucrés, et là on a un bon produit au bout de quelques mois.
Petite question, hein, parce qu'il va falloir qu'on conclue leur tourne. Le rhum, c'est du 40 degrés ou du 55 degrés?
50. Entre les deux, 50.
Bon, parce que Roger m'avait appris un jour, si le rhum ne fait pas au minimum 50 degrés, tu le gardes pour la cuisine.
Non, j'ai dit c'est bon pour la salade de fruits.
Voilà.
Mais
50 degrés, c'est correct.
Ou alors pour les gâteries pour les enfants, vous savez, le petit sucre pour les enfants, quoi.
Écoutez, leur tour, Sylvain, Thomas, je reviendrai.
Voilà.
J'en suis fort aise.
On vous remercie en tout cas de nous avoir accueillis pour la première de Bistrot de Campagne des Grignoux. Nous sommes donc au Bar à Mine, rue Saint-Hélier. C'est quoi le numéro ?
74.
Et c'est quel département, 74 ?
La Haute-Savoie,
je le savais, je suis posé dire.
Vous ne le saviez pas. Merci,
salut, à bientôt.
Merci Thomas.
Merci à vous. Lève la patte.